Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Chère Douce, merci pour ton épisode. Ça fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles et de celles d'anciennes invitées d'extimité. Je profite d'attendre que mon porridge et mon thé refroidissent pour te partager à mon tour quelques pages de mon journal extime. Nous sommes le dimanche 5 avril, à l'aube de la 4e semaine de confinement de la France. Je suis de retour chez ma mère, en banlieue parisienne, car quelques jours avant le confinement, ma colocation de rêve à Paris a pris fin. J'y vivais avec une amie de longue date qui vient d'accepter un poste à Strasbourg. Or, ce n'est pas avec ma vie de journaliste pigiste précaire qu'un propriétaire voudra bien de moi, et je me vois mal vivre en coloc avec de parfaits inconnus. J'ai donc décidé de retourner chez ma mère pour une durée indéterminée, ce qui est un privilège en soi. Soit le temps de décrocher un CDD ou un CDI dans le journalisme, le secteur qui connaît le plus fort taux de chômage de France, ou alors le temps de me reconvertir professionnellement. Autant te dire qu'avec le confinement, c'est le moment parfait pour traverser une crise existentielle. Je continue d'écrire en tant que pigiste à droite à gauche, on me répond encore moins que d'habitude, et tout ce travail me paraît de plus en plus absurde. Notamment parce que ce confinement souligne et renforce toutes les inégalités sociales, de classe, de genre et de race, mais aussi la faillite de l'information face à cette crise. On dispose de plein d'outils pour communiquer en direct à travers le monde, ce qui nous a permis de regarder en direct la Chine trembler face à ce virus, puis l'Italie s'effondrer, mais on a continué nos vies comme si de rien n'était. Je ne dis pas que c'est de l'insolence ou de l'arrogance, mais plutôt du déni, soit à la première phase d'un deuil. Or cette fois, il est individuel et collectif, personnel et mondial. Parce que clairement, on ne va pas ressortir et retrouver nos vies exactement comme on les avait laissées. Mais c'est une idée difficile à accepter. Alors on fait le deuil. À l'heure actuelle, on est près de 3,4 milliards de personnes à se confiner. On parle beaucoup de ce que ça représente en perte, d'un point de vue économique, combien d'euros, combien de dollars. Mais j'aimerais tant qu'on parle des conséquences psychologiques d'un tel degré d'isolement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer. En Chine, des études parlent déjà de séquelles propres aux troubles de stress post-traumatique. Alors oui, je suis un grand introverti, hyper anxieux socialement, et rester chez moi ne me dérange pas plus que ça. Et c'est un immense privilège, encore une fois. Mais j'ai peur pour celles et ceux qui continuent de travailler aujourd'hui. J'angoisse pour celles et ceux dont la santé est déjà en péril. Et je m'inquiète pour le reste du monde de demain. En particulier pour les personnes queer et racisées qui ont déjà l'habitude de vivre avec une sorte de stress permanent, une forme d'hypervigilance de leur statut minorisé en société. Je m'inquiète surtout pour eux, et elles, oui, parce que j'ai l'impression qu'on forme une famille dysfonctionnelle mais choisie. Cette famille magnifique et lamentable des nerveux qui est le sel de la terre. Je ne dis pas ça pour vous stresser, mais pour qu'on s'y prépare ensemble, pour qu'on prenne encore plus soin des uns des autres, en prenant d'abord soin de nous individuellement. De nos santé physique face au coronavirus, mais aussi de nos santé mentale face à ce que ce virus révèle de nos sociétés et leurs inégalités. Ce sont des conséquences qui nous affectent toutes et tous, peu importe votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, romantique, votre identité de genre et votre condition physique ou mentale. Alors oui, je m'inquiète, pour vous, parce qu'avec chacune et chacun d'entre vous qui écoutez Extimité, j'ai un peu l'impression qu'on forme une famille extime. En parlant de ça, je vous laisse avec d'autres membres de notre famille extime, que vous avez déjà entendu. L'artiste Thérèse, de l'épisode 29, le psychologue Baba, de l'épisode 28, ainsi que le médecin Walkie, de l'épisode 26. Bonne écoute, prenez soin de vous, je vous aime, en toute extimité.
Cher journal extime, ici Thérèse, nous sommes le 30 mars 2019. Ça fait 17 jours que je suis confinée seule dans mon 35 mètres carrés dans le 20e arrondissement de Paris. C'était un choix tout à fait réfléchi de ma part et surtout de responsabilité collective. Puis en vrai, comme je savais pas trop combien de temps cette période allait durer, je me suis dit que le seul endroit au monde où je me sentirais le plus chez moi, bah c'était chez moi. J'ai mes repères, j'ai tout mon matériel, j'ai mes affaires perso. J'ai des super voisins que je connais méga bien, une grande cour, et franchement c'est rare à Paris. Du coup, je me disais que j'avais aucune raison valable d'aller ailleurs finalement. Et globalement, depuis le samedi 14 mars, du coup, je le vis plutôt super bien. Bon, je me rends compte quand même que je suis une vraie hyperactive, et que même sans contrainte horaire, j'ai besoin de garder un rythme et une bonne hygiène de vie pour pas sombrer. C'est un peu ma façon à moi de vivre le truc, quoi. Et que même si ça concerne pas le boulot, bah, je vais toujours me trouver des trucs à faire. J'ai toujours plein d'idées, danser, peindre, faire des photos, geeker, réfléchir, faire la bouffe, manger, ranger aussi, de temps en temps, regarder le plafond. Et c'est comme ça, je l'accepte. C'est ce que je suis, quoi. Pour tout vous dire, j'ai même pas encore eu le temps d'aller utiliser mes codes Netflix qu'on m'a filé. Mais en vrai, au-delà de ça, je me rends compte en fait que tout le travail que j'ai pu faire sur moi depuis mon burn-out il y a quelques années m'a vachement permis de traverser cette période de façon relativement sereine. Parce qu'en fait, un confinement, ça te met face à ta condition de façon totale. Enfin. Et tu vois, moi, je me rends compte que ma vie aujourd'hui, en vrai, bah, elle me plaît. Il y a encore mille choses que j'ai envie de faire, évidemment, mais globalement, je me sens sur mon chemin. Et que toutes ces questions, toutes ces prises de tête, tous ces trucs que je me suis posés en continu, en fait, m'ont aidé à faire des choix avec lesquels aujourd'hui, je suis à l'aise. Et ça, franchement, c'est déjà énorme. Je me sens hyper reconnaissante. Puis, à côté de tout ça, je pense qu'il y a quelques années, voire même un an, j'aurais été incapable de rester si longtemps seule. Et aujourd'hui, c'est différent. Grâce à la vie, bah, je me suis pris des coups et puis j'ai appris. Et notamment, j'ai appris à devenir ma meilleure pote. Et je sais mieux me gérer, je sais mieux gérer mes émotions, les écouter et tout. Et du coup, c'est un peu bizarre, mais en fait, le fait d'être moins confronté au monde extérieur, ou moins de pouvoir le gérer, tu vois, par Internet, et le fait de pouvoir couper le Wi-Fi et tout, en fait, ça fait que je suis moins sujette aux émotions des autres, et que du coup, bizarrement, j'ai moins de down que quand je suis pas en confinement. Bon, après, j'ai aussi moins de up, hein. Enfin, faut pas se mentir... Je suis un animal social et sociable, en témoignent mes métiers, enfin, faire de la musique, des concerts et du stylisme, des tournages, des shootings et tout, bah, faut quand même aimer les gens, quoi. Et j'aime carrément le contact, enfin, vraiment, vraiment, et j'en ai besoin. Et en fait, c'est ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui, le fait de toucher personne, de façon amicale, fraternelle ou sensuelle et sexuelle même. Enfin... j'ai lu ce mot aujourd'hui et je pense que c'est exactement ça que je ressens. Je ressens ce qu'on appelle le skin hunger. Genre, j'ai envie de toucher de la peau, j'ai faim de peau en fait. Enfin, tu vois, sentir un peu l'énergie circuler de corps à corps, tout ça. Enfin, ça me... c'est le truc qui me manque le plus, je crois. Mais bon, au fond, je sais que je suis loin d'être la plus à plaindre. Enfin, tu vois, je pense au personnel soignant, malade, à ceux qui doivent aller bosser, aux vieux, et même à ceux juste qui ont des mômes à gérer, quoi. Enfin, ou des trucs moins marrants, genre les conjoints violents. Enfin, je sais pas, j'ai presque honte de le dire, mais en vrai, je trouve que cette période, elle est plutôt cool. Enfin, en tout cas, je mesure ma chance. Et c'est comme si l'univers m'offrait un truc qui n'a pas de prix. Il m'offre du temps, en fait. Et d'ailleurs, en ce moment, justement, je bosse sur mon rapport au temps et à l'efficacité. C'est un truc que j'ai un peu besoin de bosser perso. Et je joue comme un chat avec un élastique, tu vois, avec cette notion de temps, et je regarde un peu ce que ça produit sur moi. Je trouve ça intéressant. Et les soucis, eh ben, bah, je les garde pour plus tard. On aura le temps d'y penser. Là, j'essaie juste de profiter de cette période comme une occasion de continuer à bosser sur moi, à grandir, à créer beaucoup aussi et continuer à analyser le monde. D'ailleurs, en parlant de ça, un confinement, ça en dit long sur l'humanité. J'ai été frappée par plein de trucs. Je sais pas trop si c'est dans l'ordre ou quoi, mais... ou pas d'importance, enfin j'en sais rien, mais en gros, à un niveau international, je me rends compte qu'on a plein de progrès à faire en termes de coopération. Tu vois, le monde connaissait la potentialité d'une pandémie, mais personne s'est préparé à ça. Aucun gouvernement a fait le choix de mettre les sous dans la recherche, et voilà, on a mis le fric ailleurs, et les populations aujourd'hui, elles en paient le prix, quoi. Après, j'ai quand même été touchée par des trucs, genre la Chine, elle est critiquable sur plein d'aspects, mais j'ai quand même salué le fait que des médecins chinois soient venus prêter main forte aux Italiens. Ouais, ok. Bon, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais c'est politique, machin et tout, mais quand je vois ce que les Chinois et les Asiatiques du monde entier se sont pris dans la gueule ces derniers mois, franchement, je dis chapeau quand même. Enfin, quand tu vois qu'à côté de ça, il y a Trump qui a voulu acheter rien que pour les US, un traitement qui était en cours par l'Allemagne, enfin, tu te dis que, ouais, il y a quand même un gap de mentalité, quoi. Puis je me suis rendu compte aussi de la précarité des systèmes de santé, même dans les pays riches. Quand tu vois ce qui se passe en Italie ou à New York, ça fait flipper, quoi. Et voilà, et je me dis que même si c'est pas la panacée, bah franchement, on a quand même de la chance d'être en France. Après, le niveau du gouvernement me déprime un peu. En fait, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Et comment on a pu être aussi cynique et aussi lent à réagir. Et je suis encore super en colère qu'ils aient maintenu les élections, que ça ait aggravé les contaminations et qu'ils en aient eu, entre guillemets, rien à foutre, quoi. Enfin, et voilà, encore une fois, on a vachement critiqué la Chine, de la façon dont elle avait traité le truc et tout. Moi, je sais pas exactement ce qui s'est passé là-bas, mais nous, ici en France, on avait les précédents de la Chine et l'Italie. Et pour autant, on n'a pas su gérer le confinement comme il fallait, au moment où il fallait, le matériel médical, etc., etc. Voilà, enfin... Et surtout, je trouve qu'on n'a pas été suffisamment pédagogue dans le discours. Enfin, Macron, il a vachement affolé les gens sans expliquer. Voilà, enfin, j'ai pas envie de passer 1000 ans à chier sur le gouvernement et tout, mais bon, il y a quand même des trucs qui auraient pu être évités de façon certaine, et il n'y avait pas besoin d'avoir fait bac plus 20 pour comprendre ça, quoi. Après, sur certains sujets, je ne me sens pas suffisamment experte, donc je vais continuer à m'informer pour me faire mon avis, je ne suis pas médecin. Voilà. Il y a quand même un truc qui me fait peur à ce niveau-là, c'est... Enfin, dans les moments de crise, de toute façon, les états d'urgence... permettent beaucoup de choses. Enfin, là, typiquement, il y a des autorisations de sortie, etc. Et je trouve ça normal dans ce contexte. Là où ça me dérange un peu plus, c'est qu'on commence à être surveillé par des drones et... Enfin voilà, je me questionne sur le glissement vers un état policier. Enfin, on a un peu cette fâcheuse tendance dans nos sociétés actuelles à aller vers toujours plus de contrôle et du coup... Ouais, du coup, je me pose la question, quoi. D'autant plus que le peuple français, il est super indiscipliné, donc il pousse vachement à ce genre de choses. Enfin, ouais. Bah ouais, pendant le confinement, je me suis rendu compte que ça, que de la rébellion du peuple français, pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, en vrai, en temps normal, et puis, quand on n'est pas dans une crise sanitaire, cette mentalité-là, elle peut être fatigante, mais je la trouve quand même belle et bénéfique, parce que si la France en est là où elle en est aujourd'hui, c'est aussi grâce à son peuple, quoi, et à ce côté, je fais ce que je veux, quoi, et je détourne les règles. Mais le souci, là, c'est que je me suis rendu compte, et ça, je le voyais déjà, hein, mais que le peuple français a quand même du mal à penser collectif, quoi. Enfin, ça, c'est vraiment une lacune que je trouve triste. Tu vois, quand tu compares... c'est même pas une question de moyens, parce que quand tu compares, genre, au Vietnam, qui est un pays en développement, moi, je trouve que c'est flippant de voir comment on a réagi. Enfin, eux, leur slogan, ça peut être « J'aime mon pays, je reste chez moi », tu vois. En France, je sais même pas si les gens y comprendraient ça. Je suis pas que dans la critique et dans la dépression, hein. Quand même, je vois à côté qu'il se passe plein de choses hyper belles. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste à la base. Il y a des super belles initiatives de solidarité. Il y a des assos qui proposent de cotiser ou de garder des mômes, les mômes du personnel médical. Les restaurateurs qui donnent des stocks, des fleuristes qui vont fleurir des tombes avec les stocks qui leur restent, les applaudissements quotidiens à 20h et tous les gens s'y tiennent grave, les types entre indépendants, entre musiciens, tout ça. Enfin, je vois quand même qu'il y a pas mal de gens qui se serrent les coudes et c'est hyper beau ce lien qui se crée entre des groupes de population. Enfin, il y a carrément une partie de moi qui croit à cette unité et à ce changement de mentalité, quoi. Enfin... Après, tu vois, il y a même des gens qui me font trop rire. Enfin, je me rends compte que le temps permet aux gens d'être créatifs et d'être hilarants aussi. Enfin, il y a des gens qui me font grave, mais vachement de bien sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin, je sais qu'on les diabolise beaucoup, mais il y a aussi des très belles choses qui se passent, quoi. Les réseaux sociaux, c'est vachement ce qu'on en fait aussi. C'est les gens qu'on suit, quoi, qu'on décide de suivre et... Et d'un autre côté, tu scrolles, et puis en vrai, tu regardes des stories et tu te rends compte que, qu'en temps de crise, les inégalités, elles sont super exacerbées, quoi. Enfin, perso, je savais pas que j'avais autant d'amis qui avaient des résidences secondaires immenses, avec des beaux jardins et tout, ou avec des vues sur la mer, tu vois. Je savais pas non plus que j'avais des potes qui étaient autant dans la précarité, quoi. Enfin, on apprend plein de trucs. Puis dans ces inégalités-là, t'as aussi... je parlais des violences policières tout à l'heure, de l'état policier, mais je pense aux violences policières, justement. Enfin, tu vois, aujourd'hui, franchement, je déplore à mort la différence de traitement entre le non-respect des... plutôt les contrôles qui se font... la différence de traitement des contrôles entre les quartiers riches et les quartiers populaires, quoi. Enfin, j'ai pas vu de mamie sur un marché dans le 15e qui respectait pas les distances de sécurité se faire mettre à terre, quoi, pour qu'on puisse lire son autorisation. Enfin, en vrai, je trouve ça scandaleux qu'on profite de ces moments-là pour continuer à enfoncer le clou. Enfin, on n'en a pas besoin, quoi. Puis, au niveau... des inégalités, il y a aussi vachement des inégalités intellectuelles, enfin, des inégalités d'information, je trouve. Les gens ne sont pas informés, enfin, ils sont super mal informés, en fait. Enfin, même les bourges, hein, je veux dire, il n'y a pas que les gens non éduqués, etc., etc., qui disent n'importe quoi et qui véhiculent des fausses informations, des gens hyper bourgeois. Moi, je me suis fait avoir, et puis par des fakes, et puis il y a aussi des gens qui continuent à véhiculer n'importe quoi. Enfin, moi, je lis des trucs aujourd'hui qui continuent à me scandaliser, quoi. Quand y a une journaliste là qui s'appelle Audrey Pou, qui a mis des stories d'elle en train de gambader dans la forêt avec ses gamins et tout au début du confinement, et en fait elle s'est faite reprendre et par certaines de ses followers et tout qui lui ont un peu fait la morale et tout ça. Bon bah c'est la liberté des réseaux sociaux, ma foi, qu'est-ce que c'est le jeu quoi. Et en fait, la nana a répondu. Donc, elle a fait sa belle, elle a dit qu'elle avait vu que des magnifiques arbres, etc., etc. En gros, qu'elle avait contaminé personne, quoi. Et elle a terminé sa story en disant pour toute demande concernant le Covid, veuillez vous adresser 1 au pangolin, 2 aux chauves-souris et 3 aux chinois. Et ça m'a, mais genre. Ça m'a démonté la gueule, quoi. Je me suis dit, mais putain, mais une journaliste, quoi, qui dit ce genre de choses aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais franchement, ça me fait flipper, quoi. Enfin, il y a ça, il y a des humoristes aussi, même des gens que je suis sur Instagram, tu vois, qui font des chansons et tout pour faire marrer les gens. Initiative que je trouve cool, mais ils disent n'importe quoi dedans, quoi. Ils continuent à véhiculer des clichés de merde et ça me fait. Ouais, ça me fait peur pour la suite, en fait. Enfin. Toutes les violences que les populations asiatiques ont subies dans le monde depuis l'apparition de ce virus, quand je vois ce qui circule encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui, franchement, ça me fait peur, quoi. En dehors de ma santé, je dirais finalement, et bien sûr celle de mes proches, je crois que ce sur quoi je m'interroge le plus, pour la suite, c'est. Bah, j'ai peur que les rapports physiques changent entre les gens. Je me demande vachement comment les gens vont se comporter après. Je me demande même moi comment je vais me comporter après. Parce que je suis hyper tactile et ça m'est déjà arrivé, là, depuis le début du coronavirus, tu vois, d'avoir des réactions que je ne reconnais pas de moi-même dans le métro ou dans l'espace public. Puis d'une façon plus globale, ce qui m'inquiète aussi pour le futur, c'est l'angoisse des gens, en fait. Parce que l'angoisse, souvent, ça gèle la pensée. Et un peuple terrifié, en fait, c'est vachement plus manipulable. Enfin, c'est divisé et donc vachement plus manipulable. Et moi, je tiens vachement à alerter les gens sur ce point et à rester vigilante dessus. Aujourd'hui, j'espère. Je sais pas, j'espère de tout mon cœur que le Covid-19, là, il aidera à ouvrir les yeux et le cœur de certaines personnes et à montrer à ceux qui n'étaient pas encore convaincus que nos systèmes et nos priorités, bah, elles doivent être changées, en fait, dans le monde entier et à tous les niveaux, au niveau économique, politique, social, écologique, humain. Et j'espère que ça va permettre aux gens qui étaient un peu woke à le devenir encore plus et à œuvrer pour l'élévation du niveau de conscience de l'humanité, en fait. Moi, en tout cas, je continuerai à le faire et je sais que je suis pas seule et je sais que je serai pas seule. Voilà, je vous embrasse, je ferme la page du journal.
Cher journal Extime, ici Baba et aujourd'hui on est le 2 avril 2020.
Ce qui est bien avec le fait d'être confiné, c'est que on peut mieux s'organiser dans sa tête. Par exemple, moi d'habitude, j'ai l'impression qu'il y a toujours une intrusion du monde extérieur, il y a toujours quelque chose à faire, il faut sortir, il faut marcher. C'est pas que j'essaie de voir le confinement sous un angle positif, c'est juste que pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis chez moi, j'arrive à bosser sur mes 4 activités. J'ai de la chance, je peux tout faire de chez moi. C'est vrai que c'est pas simple d'enseigner depuis la maison. C'est pas très simple non plus de faire des thérapies depuis la maison, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai dû faire au mois de décembre quand il y a eu les grèves. Il y a aussi les rapports à écrire en tant que consultant. Ça, ça va, on peut le faire de la maison. Et puis, je suis éditeur depuis 2-3 mois maintenant pour un magazine malien en ligne. Et sur ce plan, c'est vraiment pas mal. Je reçois des articles et j'arrive vraiment à me poser, à les lire, à éditer. Je faisais un peu ça avant, mais je le voyais pas comme un job à part entière. Je le voyais comme quelque chose que je faisais. Alors que maintenant, je n'ai plus d'excuses et je n'ai plus de sentiment de culpabilité à me consacrer à ça. C'est vrai que c'est une activité qui génère moins de revenus, mais j'ai le sentiment que ça me lie plus avec le monde extérieur. Je reçois des sujets divers. Avant, je faisais un peu de politique, un peu de questions sociales sur le Mali. Et depuis un certain moment, j'ai rejoint tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Mais en fait, c'est un parapluie assez large où je parle des pratiques sexuelles, je parle des questions de consentement, je parle de la recherche de l'amour. Donc, en fait, moi, ça va bien. Certains amis m'ont écrit en me disant « Ah oui, mais pour toi qui es un globe-trotteur, parce que j'étais au Canada juste avant, ça doit être vraiment difficile. Mais en fait, je suis globe-trotteur peut-être, mais je suis aussi quelqu'un de très casanier à la base. J'ai jamais vraiment aimé sortir, ou plutôt, j'ai pas eu l'occasion de sortir souvent quand j'étais enfant. J'étais toujours à la maison, cloîtré avec les parents. Et à cause de ça, finalement, j'ai appris à aimer le fait d'être à la maison. Et puis, de manière générale, comme je disais aux gens, j'aime pas vraiment les gens. Ça peut paraître paradoxal, parce qu'on me voit souvent dehors, on me voit souvent à des événements sociaux. On voit que sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis. Et puis, on me voit aussi dans des choses médiatiques. Et mes parents, chaque fois que je leur disais avant, « Oh, mais j'ai pas d'amis », ils me disaient, « Non, mais c'est pas possible. T'es toujours avec de nouvelles personnes, t'es toujours en train de faire quelque chose. » Je pense que dans une certaine mesure, c'est vrai. Je suis actif. Et généralement, ce que je dis, c'est que je suis sociable, mais je suis pas social. Et en fait, ça veut dire que je peux passer du temps avec les gens. Voilà, c'est pas awkward. Il n'y a pas de facteur de gêne. Mais en même temps, livré à moi-même, c'est pas quelque chose que je ferais naturellement. Donc là, je suis juste chez moi. Et en plus, j'apprends de nouvelles choses parce que j'ai pas beaucoup d'attention de manière générale. Et là, j'essaie de regarder des séries. Bon, j'ai toujours du mal à regarder plus de 2 épisodes par jour, mais quand même, je continue. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien regarder en ce moment, c'est des séries d'horreur. Par exemple, Fear the Walking Dead, qui est un spin-off de Walking Dead. J'aime beaucoup. En fait, je pense que ce que j'aime bien, c'est que ça me fait relativiser. Souvent, je plaisante avec des amis en disant « Oui, mais en fait, c'est juste la fin du monde et les gens n'ont pas réalisé. » C'est vrai que ça peut être la fin du monde. Honnêtement, on est là, on est en train de supputer. Parfois, on rit, on discute avec des gens. Ouais, mais moi, j'arrive pas à m'enlever ça d'un coin de la tête. Mais quand je regarde ces séries, je me dis « Mais en fait, ça pourrait être pire. On pourrait être des zombies. On pourrait être à 2 doigts de mourir tout le temps. Juste, ça peut être la vraie fin du monde, quoi. » Donc ça me rassure plutôt. Et après, j'arrive à faire d'autres choses. D'autres activités sur lesquelles j'essaie de me concentrer, c'est par exemple les jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, il n'y a pas très très longtemps, bon j'étais jeune il y a très longtemps, mais je veux plutôt dire que jusqu'à une étape tardive de ma jeunesse, j'aimais bien les jeux vidéo. Par exemple, j'adorais les Sims 2 et je pouvais jouer jusqu'à 5 heures du mat. Mais avec le temps, de moins en moins, j'avais la possibilité de me concentrer. Et puis je culpabilisais toujours un peu en me disant « oui, mais je pourrais faire autre chose ». Parce que c'est pas marrant les jeux vidéo pendant 30 minutes. C'est beaucoup plus intéressant quand on peut jouer pendant des heures, être vraiment dans une plongée dans leur atmosphère et dans l'histoire. Et en fait, maintenant, ouais, j'arrive un peu, j'arrive même bien, et je vois que c'est quelque chose qui me distrait. Et c'est vrai que j'ai pas toutes ces sollicitudes du monde externe. Bon, c'est vrai que tout n'est pas rose, là j'en parle. En essayant de me concentrer sur les choses positives, parce que pour moi, c'est ce que je vois dans le quotidien. Et je dis ça à quelques amis il n'y a pas longtemps, que j'ai l'impression que c'est le reste du monde qui est en train de s'adapter maintenant à mon mode de vie préféré. C'est bien, je n'ai pas à avoir affaire à beaucoup de gens. Je vais à mon rythme, je n'ai pas d'appel téléphonique, ce qui pour moi est super intrusif et que je n'aime pas du tout. Et même en faisant les cours à distance avec Zoom, je propose de ne pas faire les cours en vidéo, de les faire à l'audio et de faire passer des planches, ou alors c'est des cours sur téléphone où j'enregistre un peu et j'envoie. Donc c'est ok, j'ai pas à ranger chez moi, j'ai pas à m'apprêter, j'ai pas à regarder mon visage sur l'écran et me dire que ça ne va pas du tout. Donc je réduis mon univers aux choses qui me conviennent. Et puis bon, finalement, quand on est à la maison, comme moi, là ça fait 10 jours que j'ai pas mis un orteil dehors, l'univers se réduit. Et en fait, on ne pense pas à l'extérieur. Moi, je regarde pas le journal. Je regarde pas la télé de manière générale. Donc, je sais pas tout ce qui est en train de se passer comme actu continue. J'ai quand même des nouvelles du monde extérieur. Je veux dire, j'écris un peu à des gens. Je vais voir des articles aussi. Parfois, on m'envoie des vidéos. J'aime pas les vidéos. Parce que pareil, il faut se concentrer. J'aime bien lire des articles. Je préfère lire un article pendant 20 minutes que de regarder une vidéo de 2-3 minutes. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de choses que j'entends pas. Là, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo, mais juste nauséabonde. C'est une vidéo de je sais pas qui, je crois que c'était sur LCI, qui est en train de dire qu'il fallait faire des tests en Afrique, c'est-à-dire sur des populations vulnérables. Faut essayer de voir comment on peut faire face au coronavirus et il donne comme exemple le fait qu'il y a eu des tests avant sur des prostituées parce que c'est considéré comme une population vulnérable. Et ouais, il y a un spécialiste entre guillemets de l'INSERM juste qui est en train d'avoir la conversation avec ce gars et je me dis où est-ce qu'on en est et je me dis heureusement que je regarde pas tout ça et mon ami m'a dit en plus que il y a des gens comme Zemmour et autres qui disent que, ben, en fait, c'est la faute des migrants qui vont aux hôpitaux, qu'on peut pas se permettre, etc., etc. Moi, je pensais pas à ça. C'était pas ma vie. Je suis content que mon ami m'en ait parlé parce que je vois ce qui est en train de se passer. Je me dis que c'est dingue. Mais d'un côté, ça me parasite un peu mon environnement interne, quoi. Donc voilà. Moi, je suis là. Si la fin du monde arrive, j'espère que, qu'est-ce que j'espère? Non, il faut pas que j'aie d'espoir par rapport à ça. Non, je n'espère rien. Mais c'est juste que j'ai toujours cru que si la fin du monde arrivait, ce serait avec une comète et qu'on allait tous mourir en même temps. Et comme ça, au moins, les choses étaient réglées. Non, là, tant de voir quand même des proches à nous être en train de toucher. Être en train d'être touchés. Là, j'ai un grand-oncle qui m'a dit qu'il a un neveu qui est mort du coronavirus et qu'en fait, ils ont rien pu faire. Il y a juste une espèce de sac d'hôpital dans lequel on a mis le corps de ce jeune homme et sa famille n'a pas pu faire d'enterrement comme il faut. Donc ça, c'est quand même assez traumatique, quoi. Mais en même temps, comme on est chacun chez nous, on peut se faire tourner de l'énergie dans un certain sens. Je trouve qu'il y a plus d'empathie en ce moment. On se contacte plus les uns les autres, on s'écrit plus les uns des autres pour avoir des nouvelles. Il y a des gens dont on n'a pas entendu parler depuis des années qui font une espèce de check-in pour savoir comment on est. Je trouve que c'est une société qui est en train d'évoluer. Je ne dirais pas que la compassion est à son maximum, parce que, ouais, encore, quand je suis sorti il y a une dizaine de jours, je vois encore des SDF dont tout le monde s'en fichait juste, quoi. Mais peut-être avec le temps, ça va passer. Et puis, j'ai lu d'abord un article sur CNN, sur l'Inde, sur New Delhi, où l'air était beaucoup plus propre. Maintenant, il y a quelqu'un qui disait que ça faisait 10 ans que l'air n'avait jamais été aussi propre. Du coup, j'ai fait des recherches sur la France et apparemment, à Paris, c'est pareil pour l'air et pareil aussi pour la pollution sonore. Et je me dis qu'après tout ça, il faudrait quand même qu'on soit plus solidaires, qu'on réduise nos émissions, qu'on arrive à vivre autrement, quoi, que ce soit une vraie révolution. Je parlerai pas de révolution de la nature là, parce que ce serait un peu glauque, mais quand même, changeons, quoi.
Cher journal Extime, ici Walkie. Nous sommes le 2 avril 2020 et j'ai enfin 2 jours de repos. Nous sommes en confinement, ou plutôt, certains sont en confinement. Moi, médecin, chirurgien, je ne connais pas de confinement. En tout cas, pas celui des autres. Nous avons enchaîné les réunions afin de nous préparer au pire. Les activités de consultation et de bloc opératoire non urgentes ont toutes été reportées. Les médecins gériatres et internistes sont en renfort des urgentistes et les réanimateurs. Nous les épaulons en réalisant des actes habituellement faits par les internes et les urgentistes. Je me lève donc sensiblement tous les jours à la même heure. Je vais au travail. J'y reste en fonction des jours plus ou moins tard, puis je rentre chez moi. C'est assez étrange de voir ces rues quasiment vides. Le silence des avenues contraste drastiquement avec l'ébullition que je vois au sein de l'hôpital. J'ai peur pour ma mère de 75 ans. Insuffisante cardiaque et respiratoire, aucun réanimateur ne la prendra dans son service si elle a le Covid-19. J'ai peur pour ma sœur et son mari. Tous deux, médecins hospitaliers eux aussi, réanimateurs, ils ont deux enfants. Qu'adviendra-t-il si l'un ou les deux décèdent suite à cette crise? J'ai peur pour mon copain. Il n'y a pas que les plus de 70 ans qui en meurent. On a encore tellement de choses à vivre ensemble. Je n'ai pas peur pour moi, bizarrement. D'ailleurs, je dois rédiger mes directives anticipées et un testament, histoire que si mon heure arrive, que les choses soient en ordre. Je regarde, de façon parfois effarée, parfois admirative, la gestion de cette crise par le gouvernement français, mais aussi par les autres gouvernements. Les USA et leurs présidents, eux qui sont à l'apogée du capitalisme avec un système de santé défaillant et qui mettent en but 100 à 240 000 morts. Pas dommage, pas perte, mais but. Les mots ont un sens et un pouvoir, je l'ai déjà dit. Le Portugal régularise momentanément ses sans-papiers afin de leur assurer une couverture médicale. Au Niger, les loyers et les factures d'eau et d'électricité ont été suspendus pour 2 mois. Au Rwanda, la nourriture est distribuée gratuitement par l'État nécessiteux. Au Bénin et au Nigeria, les présidents et certains membres du gouvernement ont offert leur salaire. Et nous, la 6e puissance du monde, on applaudit à 20h. La porte-parole du gouvernement français dénigre les professeurs de l'éducation nationale. Le ministre des Finances français publie une photo de son hamster alors que son collègue en Allemagne s'est ôté la vie par anxiété des répercussions économiques. Le ministre des Comptes publics français précise dans une interview qu'il n'est pas prévu de compensation financière, puis il lance un appel aux dons. Le Premier ministre propose de donner une autorisation d'exercice temporaire aux médecins à diplôme étranger, à condition qu'ils acceptent d'exercer outre-mer. Et là, dernièrement, des immigrés sont sollicités sur la base du volontariat pour des travaux agricoles faute de main-d'œuvre. Quelle honte! De qui se moque-t-on? L'exploitation d'un homme par un homme a un nom, il me semble. Les déclarations se suivent et j'ai l'impression de vivre un sketch, un mauvais rêve, une parodie, un simulacre de vie. On ne savait pas qu'on avait élu des clowns, mais nous sommes actuellement au cirque. Le président de la République dit que nous sommes en guerre. Mais enverrait-il des soldats de l'armée dans une guerre sans armes, sans gilet pare-balles? Si nous sommes en guerre, alors le personnel soignant devrait avoir les mêmes droits, voire plus que les militaires. À nos familles, la pension suite au décès. À nos enfants, la pupille de la nation. Mais non, il n'en est rien. Le Covid-19 n'est même pas considéré comme une maladie professionnelle. Tu es un soignant, tu es malade, et bien si ton état n'est pas proche de la réanimation, tu viendras quand même travailler. Si tu en meurs, aucune compensation particulière. Le serment d'Hippocrate n'a jamais été aussi amer. À la dernière réunion de crise de l'hôpital, il nous restait 200 masques. À peine de quoi tenir 5 jours. Ne parlons même pas des blouses, des gants et des lunettes. Les manquements et les politiques d'austérité purement capitalistes de tous les gouvernements successifs depuis 15 ans se voient aujourd'hui de façon cruelle et nous allons tous en payer le prix. Tous. Parce que nous sommes tous responsables. Tous. Mais nous ne nous y trompons pas. Parmi les premiers à tomber, il y aura nos sœurs et nos frères racisés. La couleur de peau des premiers médecins morts du Covid-19 en France et en Angleterre est bien de la couleur du miel. Nous sommes responsables d'avoir élu ces gouvernements, responsables d'avoir laissé ces mesures d'austérité se faire sans broncher. La série Years and Years n'a jamais été aussi proche de la réalité. Bientôt la servante écarlate. Les jours se suivent aux urgences, mais ne se ressemblent pas. Et le profilage des patients est assez difficile. On passe de l'agriculteur qui se blesse en faisant son métier, qui ne peut être télétravaillé, à la châtelaine qui fait une chute de cheval suite à un accident de loisir dans son domaine de plusieurs hectares. Je trouve ça drôle que ce soit un micro-organisme qui soit arrivé à paralyser la planète entière. Nos manifestations pour l'écologie, pour plus de moyens sociaux, les discours de Greta Thunberg n'auront pas servi à grand-chose au final. Comme dans Merlin l'Enchanteur, le coup de grâce au dragon du consumérisme aura été donné par l'infiniment petit. Les applaudissements à 20h réchauffent un peu le cœur, mais n'effacent pas les messages haineux et les vols subis par les personnels médicaux et paramédicaux en libéral. Beaucoup pensent qu'il y aura des changements radicaux après cette crise. Je pense qu'il va falloir encore se battre. On ne renverse pas un système instauré depuis plusieurs décennies d'une seule estocade. Le capitalisme a un genou à terre, mais n'est pas encore dans une urne funéraire. Il faut aussi savoir regarder la face lumineuse de cette crise, ces élans de solidarité qui se voient chaque jour, déjà entre nous, les médecins et les paramédicaux, mais aussi ce producteur de fraises qui nous a offert des cajots et cette enseigne de distribution qui nous a offert un panier. On ne s'y attendait pas, on a été surpris, émus. Je souhaite de tout cœur qu'après cette crise, chacun et chacune d'entre nous interpelle son député, le Premier ministre, le Président lui-même. Nous sommes en démocratie et par définition c'est le peuple qui exerce sa souveraineté. Pour finir sur une note plus douce, mes projets de vie avancent doucement mais sûrement et je fais des rencontres qui seront productives le moment venu. J'ai pris de la hauteur, regardé les problèmes et la société de haut, sortir de ma condition de victime qui elle-même implique qu'il y ait un bourreau aurait été salutaire. Je ne peux que le conseiller au plus grand nombre. J'ai aussi appris le pardon, geste salutaire lui aussi. J'ai écrit le nom de toutes celles et tous ceux pour lesquels j'avais des griefs ou de la rancœur. Je les ai tenus un à un dans mes mains en me remémorant pourquoi est-ce que j'avais ce sentiment à leur égard et je leur ai dit que je leur pardonnais. Ça m'a fait un bien fou. Pour finir, à vous auditoris, je voudrais vous faire un cadeau. Je vais vous demander toute votre attention pendant une minute et vais passer au tutorant pour plus de proximité. Alors arrête de faire ce que tu fais actuellement, s'il te plaît, et écoute-moi. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, et expire. Prends de nouveau une grande inspiration, et expire, et écoute ceci. Toi qui m'écoutes, on ne se connaît pas, mais je voudrais que tu saches que je t'aime. Je t'aime parce que tu as été, tu es, où tu seras à moi. Je t'aime de tout mon cœur et je te fais un énorme câlin, rempli d'amour et de tendresse. Cela t'a peut-être surpris, mais j'espère surtout que ça t'a touché et fait plaisir. Je te propose à la fin de l'écoute de ce podcast de dire à ton tour je t'aime à quelqu'un que tu apprécies. C'est ainsi qu'une goutte d'eau tombée du ciel devient un fleuve, une mer, un océan. On a tous besoin d'amour. Au revoir et merci à Douce et Anthony pour cette opportunité. À bientôt.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
Un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons afin que l'aventure continue.
Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus.
Merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.